Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Tiens, si on parlait du coronavirus, figurez-vous que la nouvelle carte du coronavirus va être dévoilée ce soir à conférence de presse d'Olivier Véran dans une heure maintenant. Plusieurs grandes villes devraient passer en super rouge, voire en écarlate, c'est pas très rassurant tout ça. Alors, pas question de reconfiner semble-t-il, mais il y aura probablement des mesures sanitaires supplémentaires, notamment à Paris, même s'il n'y aura pas de fermeture de bars ou de restaurants. Et là, on est toujours dans le a priori. On s'inquiète en revanche pour Roland Garros, le tournoi qui doit débuter la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de public. On vous détaillera évidemment tout ça tout au long de ces deux heures. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce mercredi 23 septembre.
Et à la une ce soir, ce vrai faux médecin. Elle n'avait ni diplôme, ni formation et pourtant, pendant 5 mois, une femme a réussi à berner tout le monde, y compris le Conseil de l'Ordre. Dans ce journal également, la colère des patrons de discothèques. 6 mois qu'ils sont fermés, ils ont manifesté aujourd'hui à Rennes.
Qui peut rester autant de mois avec des charges mais sans ressources, personne.
Et puis les pays qui refusent d'accueillir des migrants peut-être bientôt contraints de payer. La Commission européenne a présenté aujourd'hui les grandes lignes de son nouveau pacte migratoire.
Clément Beaune, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé justement des affaires européennes, sera d'ailleurs l'invité d'RTL Soir. Ce sera dans un quart d'heure maintenant.
Et puis les courses, le Quintet Plus avait lieu aujourd'hui à Lisieux. Il fallait jouer le 11, le 2, l'As, le 16 et le 9.
La météo, que de pluie, encore de l'eau, de l'eau, de la haut, bonsoir.
Bonsoir. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui en région parisienne veulent rentrer au sec, faites-le maintenant, là, parce que dans une heure, c'est parti, il pleut, il y a déjà une belle averse, mais ça va être de la pluie continue dans l'heure qui arrive. C'est cette perturbation qui est en train de traverser la France, qui demain s'étalera quasiment sur toutes les régions, d'ouest en est, alors des pluies sous forme d'averse, parfois accompagnées d'orages. On aura un petit peu moins le matin dans le nord-est et un peu moins également l'après-midi autour du golfe du Lion, mais c'est tout. Ailleurs, ne faites pas d'illusions, on aura nuages et pluies, parfois accompagnées d'orages, et le vent on va se mettre de la partie 100 km/h demain après-midi sur les côtes de la Manche, sur le nord de la Bretagne notamment, jusqu'à 70 dans les terres. Oui, une vraie journée d'automne, d'autant plus que les températures vont baisser, 14 à 16 degrés ou 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 22 dans le sud.
Voilà, faites attention en bord de mer, avec un vent pareil sur les côtes de la Manche. Merci Louis, à tout à l'heure.
Thomas Soto, RTL Soir.
Et on commence donc avec cette histoire à peine croyable à Montceau-les-Mines, celle de cette femme qui pendant 5 mois s'est faite passer pour un médecin avec l'accord du Conseil de l'Ordre. Bonsoir Frédéric Perruche.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour RTL. Ce soir, l'épouse d'un retraité accuse cette femme d'avoir mis en danger la vie de son mari.
Ah oui, pour Régine Gauthier, pas de doute, cette fausse médecin aurait pris les mauvaises décisions. Elle a été incapable de soigner l'œdème à la jambe de son mari, âgé de 67 ans. C'était fin juillet et ce problème assez basique s'est transformé en crise pulmonaire aiguë qui a failli coûter la vie à Jean-Marc, placé en coma artificiel.
On nous a dit qu'il s'était noyé les poumons et le cœur. On nous a dit, c'est comme si vous tombiez dans une piscine. Il ne pouvait plus respirer, il étouffait, quoi. On nous a même demandé, si jamais son cœur s'arrête, est-ce qu'il faut réanimer, hein ? Il ne respire pas tout seul, il est toujours en train de respirer avec une machine, là. Puis on se pose des questions, s'il va s'en sortir, parce qu'on nous donne garde d'espoir, c'est surtout ça. Hein. C'est pas un médecin, comment elle a pu se permettre de faire une chose comme ça, de jouer avec la vie des gens ? J'ai la haine contre elle, hein.
La fausse médecin, âgée de 35 ans, a réussi à travailler pendant près de 5 mois dans un centre médical de Montceau-les-Mines, où elle a suivi plusieurs centaines de patients. Elle a réussi à abuser le Conseil de l'Ordre avec un faux diplôme de l'Université de médecine Paris 13, très bien imité, reconnaît embarrassé le président du Conseil, Gérard Montagnon.
Personne n'a tiqué sur l'authenticité du diplôme. Personne ne peut contester ce document-là, sauf à être peut-être un expert, et encore, mais personne n'a contesté l'authenticité de ce diplôme. Hein. Mais il est bien évident qu'il y a une procédure à revoir. On s'est fait abuser.
Une enquête a bien sûr été ouverte. La jeune femme a été hospitalisée avant une probable garde à vue, si son état de santé le permet.
Frédéric Perruche en direct de Montceau-les-Mines pour RTL.
Sur le front du Covid à présent, on attend donc ce soir de nouvelles restrictions.
Conférence de presse d'Olivier Véran, ce sera aux alentours de 19h. Le ministre de la Santé, qui a pris un nouveau conseil de défense ce matin, devrait présenter une nouvelle carte de France du Covid. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Après les zones rouges, des zones super rouges et même écarlates devraient faire leur apparition.
Oui, la situation se dégrade et le gouvernement veut que cela se voie. Alors dans certaines grandes métropoles, et ça devrait être le cas de Paris, on va en effet passer du rouge à l'écarlate comme un ultime avertissement. avertissement face à ces contaminations qui repartent en flèche. Nouvelle carte, nouvelle couleur et donc nouvelle restriction. Dans la capitale, on parle d'une interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ou encore de la fin de la vente d'alcool après 20 heures. Le ministre Olivier Véran s'apprête à fixer, lui, le cadre général, charge ensuite au préfet d'annoncer les décisions locales au cas par cas. Et ça va se faire dans les prochaines heures, avec à chaque fois des négociations difficiles. À Paris, Anne Hidalgo insiste pour qu'on ne touche pas pour l'instant aux horaires d'ouverture des bars et des restaurants, et elle pourrait bien en avoir gain de cause. Dernière précision, quel que soit l'endroit où vous vivez, quelle que soit votre couleur sur la carte, aucun reconfinement n'est envisagé, même local, et on en est encore très loin, nous confirment ce soir plusieurs sources au sein du gouvernement.
Merci beaucoup William Galibert du service politique de RTL, conférence de presse. Donc dans moins d'une heure maintenant, les discothèques, elles, et ça c'est une certitude, resteront fermées, hein, quelle que soit la couleur. Elles n'ont d'ailleurs jamais rouvert depuis le confinement, 6 mois que cela dure. Beaucoup trop, disent ce soir les patrons des établissements concernés. Ils ont manifesté aujourd'hui à Rennes, Nicolas Bobby.
Tristes, en tenue noire, ils sont restés immobiles 2 heures sur des caisses techniques avec des pancartes. La nuit doit revoir le jour où je cherche du travail. Vincent Judgé, patron du Must, à Plumeur, dans le Morbihan.
Qui peut rester autant de mois avec des charges mais sans ressources? Personne.
Dom, surnommé Maman, gère la pergola à l'Esnevin, dans le Finistère.
Maman a des dettes, parce que les aides qui nous ont été promises mi-juillet, nous n'avons toujours rien reçu. Et moi, je suis à 3 ans de ma retraite. Ma trésorerie, à la base, elle n'était pas faite pour ça.
Alors, les discothèques sont-elles des nids à Covid? Alexandre Delannoy du Stanley Club à Saint-Grégoire, près de Rennes.
Il n'y a pas plus de risque dans la rue, il n'y a pas plus de risque dans un restaurant, il n'y a pas plus de risque dans un grand magasin. Qu'est-ce qui empêche les discothèques d'ouvrir?
Tous ces professionnels observent avec inquiétude les tapages nocturnes qui se multiplient partout en France.
Reportage à Rennes signé Nicolas Bobby pour RTL. Une crise sanitaire qu'Emmanuel Macron a refusé d'évoquer cet après-midi, Amandine.
Le chef de l'État était en déplacement dans l'Essonne à Longjumeau pour y promouvoir le nouveau congé paternité, congé qui va passer de 14 à 28 jours, dont 7 seront obligatoires.
C'est pas rétroactif, non ?
Non, c'est pas rétroactif, ce sera à partir du 1er juillet et pas avant. 7 jours obligatoires, c'est la nouveauté annoncée par le président.
C'est une avancée en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Et on ne naît pas parents. Ça s'apprend. Ce congé paternité, c'est aussi quelque chose qui reconnaît le rôle des parents et qui va permettre au papa d'être aux côtés des mamans. Et durant ce premier mois de la vie des enfants, eh bien d'être là pour l'éveil affectif, cognitif des enfants et leur donner un maximum de chance.
On ne naît pas parents. Et oui, ça en confirme Emmanuel Macron. Il était au micro RTL de Vincent Derosier. Mais c'est vrai, ça s'apprend et tous les jours, hein, pas que pendant un mois.
Vous l'étayez, vous en parlez un peu?
Non, tout
ça,
va bien.
Ça se passe bien.
Oui, tout, il va très bien. Tout va bien.
Tant mieux. Aussi. On marque une pause dans un instant. Le nouveau pacte migratoire européen, comprenne qui pourra.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et Marseille se dit ce soir prête à accueillir sans condition l'Alan Kurdi et ses quelques 130 migrants.
133 personnes secourues en Méditerranée samedi dernier. Le navire qui appartient à une ONG allemande espérait pouvoir rejoindre un port en Italie, mais ça lui a été refusé, d'où cette piste marseillaise. C'est dans ce contexte que la Commission européenne elle a présenté aujourd'hui son nouveau pacte migration, celui qui est censé remplacer le fameux pacte de Dublin. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
Concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer?
Nous repartons d'une feuille blanche et nous mettons Dublin au frigo, affirme Bruxelles. Ce dispositif de Dublin qui rendait responsable d'un migrant le premier pays dont il avait foulé le sol était trop lourd pour les nations proches de la Méditerranée. La Commission européenne dévoile donc ce nouveau mécanisme de solidarité. D'abord, au quotidien, le migrant ne sera plus forcément enregistré dans son pays de première arrivée, mais dans celui où il a des liens familiaux ou alors où il a étudié. Ensuite, en cas de nouvelle forte crise migratoire, si un pays croule sous les demandes, tous les États seront mis à contribution. Et si la Pologne, par exemple, rien qu'un exemple, refuse toujours de prendre sur son territoire des migrants, elle devra de toute façon participer financièrement, logistiquement, à leur renvoi dans leur pays d'origine. La demande d'asile sera traitée dans un délai de 12 semaines seulement, promet Bruxelles. Le rapatriement organisé sous 8 mois, des délais énormément raccourcis par rapport à aujourd'hui.
On est d'accord, Bénédicte, que c'est un projet pour l'instant.
C'est un projet.
Ça n'a pas été validé. On en parlera d'ailleurs
avec... Il faut qu'il soit voté par les 27 pays.
Et ça, c'est une autre histoire dont on parlera donc avec Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Il sera en direct dans RTL Soir dans 4 minutes maintenant.
Encore une journée très forte en émotion aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015 avec à la barre les rescapés de l'hypercachère. Jean-Luc notamment, il a passé 4 heures caché dans le frigo du magasin. 4 heures d'enfer et d'angoisse. Jusqu'au bout, il a hésité à témoigner.
On est enfermé, il n'y a pas de sortie. Il tire avec une froideur et une aisance extraordinaire. Donc une fois que je suis en bas et que j'ai vu tout ce que j'ai vu, j'ai dit bon, on attend de mourir et de toute façon il n'y a pas d'autre issue. On attend notre mort jusqu'à un certain moment qu'on en a marre d'attendre et on aimerait que la chose se précipite. Pendant une heure et demie, on est resté à genoux dans le congélateur. Ça fait mal aux genoux, on est dans le noir, qu'ils viennent à moi et puis que ça y est, on en termine parce que c'est insupportable. Une minute, c'est une heure pour nous. C'était interminable. Comment apprendre à vivre? On essaie tous les jours. Des fois, on pense se persuader en se disant « Bon, allez, non, ça y est, c'est fini. » Et puis, à un moment dans la journée, hop, vous avez un flash qui vous traverse la tête et puis ça vous plombe la journée. Ça serait génial si on pouvait parler et qu'on ressort, ça y est, il n'y a plus rien. Le sac est vide. Je suis ressorti avec le même sac, je pense.
Une minute, c'était une heure, vous imaginez 4 heures. Témoignage très fort, recueilli pour RTL par Anne Le Hénaff. Et puis dans l'enquête sur le viol et l'enlèvement de cette petite fille dans la Vienne, les résultats des analyses ADN viennent ce soir confirmer l'implication de l'homme interpellé à Saumur, un individu qui est toujours en garde à vue ce soir. Il a par ailleurs reconnu le viol de la septuagénaire à qui il avait volé sa voiture.
Et puis on l'a appris cet après-midi, le décès de Pierre Trois, gros monument de la gastronomie.
Oui, avec son frère Jean, ils avaient révolutionné la cuisine, inventé entre autres le saumon à l'oseille, poursuivant la tradition familiale. Chez les Trois Gros, on est chef de père en fils, comme il le confiait à RTL il y a quelques années. Écoutez.
On nous envoyait chercher de la nourriture en vélo et je me disais, il était plus important de ramener un kilo de beurre que des bonnes notes de l'école. Mon père nous avait mis dans la tête que le plus beau métier du monde, c'était celui de cuisinier.
Oui, plus important le kilo de beurre que des bonnes notes à l'école. C'était
Pierre
Trois Gros.
Merci à votre fils de vous en parler encore ce soir. Tiens.
Il avait 92 ans.
Merci beaucoup Amandine, à tout à l'heure. Quel chemin pour les migrants dans un instant. C'est donc Clément Beaune qui est l'invité d'actualité d'RTL Soir.
RTL Soir.